Retour à Montbuisson.
Il arrive que toute une machination longuement ourdie soit compromise dès l'origine par une faille de raisonnement. Robert s'aperçut soudain que les catapultes qu'il avait si bien montées pouvaient se casser au moment de tirer, faute de sa part d'avoir songé à un ressort premier. Il avait certifié au roi son beau-frère et juré solennellement sur les écritures que ses titres d'héritage existaient. Il avait fait établir des lettres aussi semblables que possible aux documents disparus. Il avait provoqué de nombreux témoignages pour étayer la validité de ses écrits. Toutes les chances semblaient donc rassemblées pour que ses preuves fussent agréées sans discussion. Mais il existait une personne qui savait, elle, indubitablement que les actes étaient faux. Mao d'Artois. Puisqu'elle avait brûlé les vrais actes, ceux d'abord des registres de Paris, dérobés quelques 20 ans plus tôt grâce à des complaisances dans l'entourage de Philippe le Bel, et puis tout récemment les copies récupérées dans le coffre de Thierry d'Hirson. Or, si un faux peut passer pour authentique aux yeux des gens, favorablement prévenus, et qui n'ont jamais eu connaissance des originaux, il n'en va pas de même pour qui est averti de la falsification. Certes, Mao n'irait pas déclarer « ces pièces sont mensongères parce que j'ai jeté au feu les bonnes », mais sachant les pièces frauduleuses, elle allait tout mettre en œuvre pour le démontrer. On pouvait sur ce point lui faire confiance. L'arrestation des mesquines de la Divion constituait une alerte probante. Trop de personnes déjà avaient participé à la fabrication pour qu'il ne s'en trouvât pas quelqu'une capable de trahir par peur ou par appât du gain. Si une erreur s'était glissée comme le malheureux 1322 à la place de 1302 dans la lettre lue à Ruilly, Mao ne manquerait pas de la déceler. Les sceaux pouvaient sembler parfaits, mais Mao en exigerait le contre-examen minutieux. Et puis, le feu contre Robert II avait comme tous les princes l'habitude de faire mentionner dans ses actes officiels le nom du clerc qui les avait écrits. Évidemment, pour les fausses lettres, on s'était gardé de cette précision. Or, telle omission sur une seule pièce pouvait passer, mais sur quatre qu'on allait présenter. Mao aurait beau jeu à faire ouvrir les registres d'Artois. « Comparez, dirait-elle, et parmi toutes les lettres scellées par mon père, cherchez donc la main d'un de ces clercs qui ressemble à ces écritures-là. » Robert en était venu à la conclusion que ces pièces, qui avaient en son esprit valeur de vérité, ne pouvaient être utilisées que lorsque la personne qui avait fait disparaître les originaux aurait elle-même disparu. Autrement dit, son procès n'était gagné qu'à la condition que Mao fût morte. Ce n'était plus un souhait, mais une nécessité. « Si Mao venait à trépasser, » dit-il un jour à Béatrice d'un air songeur, les deux mains sous la tête et regardant le plafond de la maison Bonnefille. « Oui, si elle trépassait, je pourrais fort bien te faire entrer en mon hôtel, comme dame de parage de mon épouse. » Puisque je recueillerais l'héritage d'Artois, on comprendrait que je reprenne certaines gens de la maison de ma tante. Et ainsi, je pourrais t'avoir toujours auprès de moi. » L'hameçon était gros, mais lancé vers un poisson qui avait la bouche ouverte. Béatrice n'entretenait pas de plus douces espérances. Elle se voyait habitant l'hôtel de Robert, y tramant ses intrigues, maîtresse d'abord secrète, puis avouée, car ce sont la chose que le temps installe. Et qui sait ? Madame de Beaumont, comme toute créature humaine, n'était pas éternelle. Certes, elle avait 7 ans de moins que Béatrice et jouissait d'une santé qui semblait excellente, mais quel triomphe, justement, pour une femme plus âgée de supplanter une cadette. Est-ce qu'un envoûtement bien accompli ne pourrait pas d'ici quelques années faire de Robert un veuf ? L'amour ôte tout frein à la raison, toute limite à l'imagination. Béatrice se rêvait par moments comtesse d'Artois, en manteau de Pairesse. Et si le roi, comme cela pouvait aussi survenir, trépassait, et que Robert devint régent ? En chaque siècle, il existe des femmes petitement nées qui se haussent ainsi jusqu'au premier rang par le désir qu'elles inspirent à un prince et parce qu'elles ont des grâces de corps et une habileté de tête qui les rendent supérieures, par droit naturel, à toutes les autres. Les dames empérières de Rome et de Constantinople, à ce que racontaient les romans des ménestrels, n'étaient pas toutes nées sur les marches d'un trône. Dans la société des puissants de ce monde, c'est allongé qu'une femme s'élève le plus vite. Béatrice mit pour se laisser ferrer juste le temps nécessaire à bien s'assurer prise sur celui qui la voulait prendre. Il fallut que Robert, pour la convaincre, s'engageât assez et qu'il lui eût 10 fois certifié qu'elle entrerait à l'hôtel d'Artois et les titres et prérogatives dont elle jouirait et quelles terres lui seraient données. Oui, alors, peut-être, Elle pouvait indiquer un envoûtement qui, par image de cire bien travaillée, aiguille plantée et conjuration prononcée, ferait œuvre nocive sur Mao. Mais encore Béatrice feignait d'être traversée d'hésitation, de scrupules. Mao n'était-elle pas sa bienfaitrice et celle de toute la famille d'Hirson? Agrafe d'or et fermeaux de pierrerie bientôt s'accrochèrent au cou de Béatrice. Robert apprenait les usages galants. Caressant de la main le bijou qu'elle venait de recevoir, Béatrice disait que si l'on voulait que l'envoûte réussît, le plus sûr et le plus rapide moyen consistait à prendre un enfant de moins de 5 ans, auquel on faisait avaler une hostie blanche, puis de trancher la tête de l'enfant et d'en égoutter le sang sur une hostie noire, que l'on devait ensuite, par quelques subterfuges, faire manger à l'envoûté. Un enfant de moins de 5 ans, cela requérait-il grand-peine à trouver? Combien de familles pauvres, surchargées de marmailles, eussent consenti à en vendre un?